Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Escapade et vous. Aujourd'hui, on prend la voiture, direction le Mont Aigoual. On monte à 1560 mètres d'altitude pour aller découvrir le tout nouveau climatographe qui a ouvert ses portes il y a quelques mois dans les murs de l'ancien observatoire météorologique du Mont Aigoual. Une nouvelle exposition scientifique y a pris ses quartiers sur 700 mètres carrés pour tenter de faire comprendre et mesurer les enjeux du changement climatique. Pour découvrir les nouveaux contenus de cette exposition du climatographe, nous avons rendez-vous avec son directeur, Laurent Bonnard, qui a lui aussi pris ses quartiers il y a peu dans ce bâtiment aussi historique qu'emblématique du Mont Aigoual. En ce matin du 3 octobre, dans une salle de bureau située dans la tourelle de l'observatoire, première question de circonstance, quel temps fait-il ?
Alors il fait un temps magnifique, on le voit par la fenêtre, peu de vent. Aujourd'hui on est à 11 degrés de température, un vent dont la plus grosse vitesse a été enregistrée à 26 nœuds. Donc voilà, on est dans un temps très calme, une vue assez dégagée, même s'il y a un petit peu de brume sur les alentours.
Donc des observations réalisées depuis votre bureau, où on a déjà une belle vue sur les environs et avec la station météo qu'on voit.
Oui, on a encore la chance d'avoir sur le site une station automatique. Donc là, dans mon bureau, j'ai un renvoi d'informations sur un petit écran, ce qui nous permet le matin de voir un peu quel temps il fait. Alors, ce n'est pas un outil de prévision, hein. On n'est pas prévisionniste. Moi, je ne suis pas météorologue, je suis géographe de formation. Et donc, ça me permet quand même de me faire une idée de la manière dont la journée va se dérouler. Et puis, ça permet aussi aux visiteurs de leur donner quelques infos un peu sympas dans la salle en bas de l'exposition. Bonjour, Laurent Bonnard, directeur du climatographe.
Alors le climatographe, c'est nouveau, mais nous sommes ici donc dans le bâtiment, l'observatoire météorologique du Mont Aigoual, qui lui a quelques décennies, voire siècles derrière lui. Là, on a une galerie derrière nous, j'ai pu observer des relevés de température de 1897, donc on est sur un site historique.
Oui, c'est un site qui a été construit par Georges Favre à la fin du 19e siècle pour observer, travailler à l'observation scientifique du reboisement des montagnes de l'Aigoual qui étaient à cette époque complètement dépeuplées de ses arbres, aussi de la population, mais surtout de sa forêt. Et donc il a installé ce site qui au départ était géré par l'administration des eaux et forêts.
Et ensuite, c'est devenu un observatoire météo.
Alors, il a eu trois vies. Enfin, il en a eu deux et la troisième vient de débuter. La première vie, donc, c'est celle que Georges Fabre a inspirée en créant ce lieu, qui a duré jusqu'en 1943, époque au moment de laquelle il y a eu donc le transfert de l'activité à l'administration française qui s'occupait de météorologie nationale. Alors, ce n'était pas encore Météo France, mais on va passer les détails. Et cette deuxième vie qui démarre en 1943 va perdurer jusqu'en 2023. Et 1er juillet 2023, date à laquelle nous avons ouvert officiellement ce centre d'interprétation et de médiation du changement climatique qui accueille depuis le début du mois de juillet les visiteurs dans les mêmes locaux. À la différence près, c'est qu'il y a effectivement un changement de nature de l'exposition que les gens avaient l'habitude de visiter, puisqu'on a élargi le champ au climat, au changement climatique. On est passé donc de la référence à la météorologie, on va dire pure et dure, même si les météorologues qui accueillaient les visiteurs parlaient aussi du climat. Et désormais, on se consacre au climat dans sa grande complexité et dans ces changements que tout le monde peut noter aujourd'hui dans son quotidien.
Ces derniers jours, on a battu quelques records, je crois, pour un mois d'octobre au niveau en tout cas européen et peut-être même local.
Alors, on a battu d'abord un record au milieu du mois d'août, hein, puisque c'est un record dont on n'est pas forcément très heureux, mais on est passé au-dessus de la barre des 30 degrés le 17 août, à 30,4 degrés. Le dernier record datait de 2019 avec 29,9 degrés. Là, au mois d'octobre, pardon, on a battu des records de minima la nuit. Donc, on a avant-hier ou dimanche eu 14 degrés la nuit, alors que d'habitude, on descend quand même relativement bas. Les nuits du mois d'octobre commencent à être fraîches. On est autour des 5, 6, 7 degrés. Là, on était à 14. On n'est pas descendu en dessous. Et on a eu une grosse amplitude, puisqu'on est arrivé à 22 degrés cette même journée. Voilà, donc là, c'est des éléments qu'on a peu l'habitude d'observer, et on peut d'ores et déjà considérer que le réchauffement climatique en est probablement la cause, même si on n'a pas, nous, fait d'études là sur ce dernier mois à ce sujet. On parlait d'histoire tout à l'heure. Il y a effectivement une dimension scientifique qui caractérise l'observatoire du Mont Aigoual depuis son origine. Georges Fabre a installé un observatoire météo pour pouvoir reboiser les montagnes de l'Aigoual, pour observer la manière dont certaines variétés, certaines espèces pouvaient s'adapter à ces climats extrêmes. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc on a toujours été un lieu scientifique et on continue à l'être. On va accueillir à la fois cette exposition qui a un caractère évidemment de vulgarisation scientifique. On va aussi accueillir de la recherche et on a aussi un centre d'essai climatique en conditions sévères qui fonctionne pour tester des matériaux au-dessus de l'observatoire. Donc la deuxième dimension, on devient centre de médiation et de sensibilisation parce que les élus de la communauté de communes Causses-Aigoual-Cévennes ont considéré depuis quelques années que ce lieu-là devait garder cette vocation de médiation, d'accueil du public, d'explication relative à la météo et au climat. Et ça fonctionne relativement bien, on a accueilli déjà beaucoup de visiteurs cet été. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, qui est une raison plus qu'il faut vivre en montant sur le sommet, c'est qu'on est le lieu de tous les extrêmes. C'est un lieu en hauteur, 1567 mètres d'altitude, où il fait des températures relativement basses l'hiver. On a quelques records de nombre de jours de brouillard par an, de givre, d'amplitude thermique. Voilà, on est de vent aussi, puisqu'on a des vents très 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 importants qui peuvent souffler, donc notamment le vent du nord qui peuvent souffler dans l'année. Donc voilà, c'est un lieu qui conjugue des dispositions qui font qu'il faut qu'on vienne continuer à visiter ces espaces et se faire une idée de ce qu'est la météo, quel est le climat et quelles sont les conséquences du changement climatique sur le quotidien des Français et des visiteurs qui viennent d'un peu partout en Europe durant la saison estivale notamment.
C'est vrai que d'ici on peut voir la mer, les Pyrénées, des fois les Alpes, le Massif central. On a vraiment l'impression d'être au centre en tout cas de différents paysages français qui ont chacun leurs caractéristiques.
C'est un lieu incroyable. Le matin quand j'arrive dans mon bureau, la plupart du temps, je monte au-dessus du belvédère pour pouvoir observer. On a l'habitude de dire ici qu'on peut voir et observer un quart de la France. Et en faisant le tour, effectivement, de la plateforme, on voit les monts du Cantal quand le ciel est bien dégagé, les Pyrénées, la Méditerranée avec Sète, Montpellier, les étangs. On a le Ventoux de l'autre côté, la chaîne du Vercors et des Alpes. Et donc, on a fait le tour sur 360 et observé un quart du territoire français. Voilà. C'est vrai que c'est un lieu qui, pour ça, attire beaucoup de visiteurs. Il y a quand même un lieu qui est prédisposé à la contemplation, au calme, à la poésie. On allie les sciences, la poésie, l'observation, la contemplation. Et j'ai fait comme slogan, moi, personnel, de ce lieu, le lieu des extrêmes. On est un lieu des conditions extrêmes et aussi, du coup, on est un lieu de la convivialité extrême. Voilà, on essaye de rester très accueillant et les visiteurs qui ressortent de l'observatoire en gardent un souvenir important et c'est vrai qu'ils y reviennent et ils en parlent autour d'eux. Ce que je vous invite d'ailleurs à faire au travers de vos ondes, parler du climatographe, parler de l'observatoire du Mont Aigoual, parce que c'est un lieu dont on ne revient pas indemne. Voilà. Voilà, là, on est dans l'escalier historique que Georges Favre a gravi des centaines de fois, qui a été donc à l'origine, qui dessert des étages dans lesquels sont situées les chambres, les lieux de vie des météorologues jusqu'à maintenant, et puis à l'époque des agents de l'administration des eaux et forêts. Il y avait ici plusieurs familles qui vivaient pour travailler sur le Mont-Aigoual à l'observation et au reboisement de ces montagnes. Donc on a des lieux de travail, un lieu de vie et un lieu pour se reposer la nuit. Voilà.
L'équipe qui travaille ici aujourd'hui, je ne sais pas d'ailleurs combien de personnes la composent.
Alors aujourd'hui, ben, les météorologues, puisque Météo France a fait le choix de ne plus laisser de permanents sur le site, l'équipe c'est 3 personnes. Donc Christian Pialot qui reste en poste ici et qui s'occupe du bâtiment et qui s'occupe du centre d'essai climatique. Delphine Bourrier qui est à la manœuvre pour accueillir à la boutique et proposer des choses assez géniales pour les visiteurs. Et puis moi-même qui donc dirige l'observatoire avec probablement un recrutement qui va arriver pour l'année prochaine puisqu'il va falloir qu'on remplace entre guillemets la présence des météorologues qui faisaient la médiation auprès du public.
Donc pour les gens qui dormaient en tout cas ici dans ce lieu, c'est un peu comme une vie dans un phare. On peut se retrouver isolé.
Oui, on compare l'observatoire à un phare, à un château fort aussi, parce qu'il a cette tour crénelée qui donne cette image de notre histoire. C'est un lieu où on va continuer à venir dormir. On accueille des journalistes, on accueille des cinéastes, on accueille des auteurs de bandes dessinées. Des gens qui viennent travailler avec notre équipe sont évidemment invités à rester sur place. Parce que c'est d'abord une expérience forte, et puis c'est surtout très pratique parce qu'on est quand même assez éloigné de tous les lieux d'hébergement autour de nous. Voilà.
Et le climat en plus peut être un peu compliqué, j'imagine. Des fois on peut être coincé ici, non ?
Oui, alors moi ça m'est pas encore arrivé. On peut être coincé avant d'arriver parce qu'il a neigé ou parce qu'il y a de la glace. Et par contre, il peut y arriver aussi que les gens en place soient surpris par un épisode neigeux sévère et donc se retrouvent effectivement coincés. Mais ici, tout est fait pour qu'on puisse vivre en autonomie pendant quelques jours. Il y a quelques congélateurs remplis de victuailles qui permettent de tenir un siège météo. Voilà.
D'accord. Et donc, on a aussi, j'imagine, des vieux appareils, des archives ici dans ce bâtiment qui sont toujours là.
Alors, il nous reste encore des archives matérielles. Les archives documentaires sont parties il y a exactement 15 jours à Toulouse, au Centre d'archives nationales de Météo France. Alors, c'est des archives qui ont été numérisées. Je le dis au passage aux auditeurs, on a cette possibilité de retrouver tous les relevés de prévision, d'observation et de prévision de Météo France qui ont été scannés et qu'on peut retrouver sur le site de Météo France, ce qui permet de voir un peu comment éventuellement évoluer. Et les chercheurs sont d'ailleurs invités à les utiliser sans aucun problème. Ici, ils ne sont plus présentés. Et par contre, il reste des instruments que nous allons remettre. Alors je le dis pour les visiteurs qui ont un peu regretté cet été de ne pas avoir vu les appareils anciens. On va remettre quelques appareils dans la galerie au rez-de-chaussée, de manière à ce qu'on retrouve cette dimension un peu passée, historique. Les photos aussi, des événements climatiques extrêmes. Et puis un rappel de l'histoire de ce lieu qui a été habité jusqu'en 2023.
Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour justement, visiter les salles d'expo ?
Bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Bonne visite. Je vous dérange juste une seconde, je traverse. Voilà. Bienvenue à l'observatoire. Je vois que vous avez un guide efficace.
Nous sommes dans une nouvelle partie, donc c'est des choses qui ont été construites, des rajouts sur le bâtiment existant.
Oui, ici on est dans la salle Agir, qui est la dernière salle de l'exposition. Quand on a fini de visiter les 9 salles précédentes, on a reçu beaucoup d'informations sur la météo, sur le climat, sur le changement climatique et ses conséquences. Et il peut arriver que certains visiteurs soient un peu abattus par les informations qui ne sont pas forcément très agréables à recevoir. Et donc cette salle Agir permet de rentrer dans un autre état d'esprit et de se mettre en action, en tout cas de trouver des outils pour pouvoir agir sur ces questions du réchauffement climatique, sur les transitions et sur l'adaptation au monde qui nous entoure aujourd'hui et qui n'est pas simple pour tout un chacun. L'exposition, elle est composée de 10 salles. La première est une salle d'accueil où on situe le visiteur dans l'histoire, dans la géographie du Mont-Aigoual. La deuxième salle, c'est une salle qu'on appelle la Galerie Sud, qui est face à la vallée et face à la Méditerranée, sur laquelle on peut avoir une évocation des paysages avec des audios qui permettent d'écouter des poètes, des chanteurs, des interlocuteurs divers et variés, des lectures, et aussi beaucoup de citations de scientifiques qui parlent du climat et du réchauffement climatique. Une troisième salle permet de regarder comment a fonctionné ici la météo, comment les relevés ont été réalisés depuis 1894. Et puis après, on passe à plusieurs salles qui nous invitent à découvrir comment le climat fonctionne, comment il fonctionne, comment il fonctionnerait sans la présence humaine, comment il fonctionne en raison de l'anthropisation, de la présence humaine, et notamment de l'industrialisation qui a démarré au XIXe siècle sur la planète, et donc les conséquences derrière pour le climat et pour la vie sur Terre. Voilà, donc ça c'est vraiment le parti pris, on part de la météo, on arrive au climat, et on explique comment le climat fonctionne et comment l'homme impacte ce climat. Il y a une salle qui est assez spectaculaire, qui s'appelle la salle du GIEC, qui comporte une sphère sur laquelle est modélisé 4 scénarios du GIEC. Le GIEC, tout le monde sait, tout le monde en entend parler quasiment au quotidien, notamment en ce moment. Donc David Salas-Simelas, qui est un météorologue de grand renom, a modélisé 4 scénarios qui sont projetés sur une sphère qui est mobile et qui permet de comprendre les conséquences sur la planète du réchauffement climatique.
Alors justement, puisqu'on parle des contributions scientifiques, quels ont été les échanges avec la communauté scientifique ?
Alors évidemment, pour faire une exposition sur 800 mètres carrés telle que les visiteurs la découvrent ici, on a travaillé avec un comité scientifique depuis 3 ans. C'est un comité scientifique qui est composé, alors d'abord, qui est présidé par Valérie Masson-Delmotte, qui est une des plus grandes climatologues françaises, qui a fait partie jusqu'à ces dernières semaines du GIEC, qui a d'ailleurs présidé une des commissions du GIEC avec un rapport qui a été rendu à la fin de l'année 2022. Donc Valérie Masson-Delmotte et Robert Votard, qui l'a accompagné sur ces sujets. David Salas-Simelas, je l'ai dit. Et voilà, et plusieurs représentants du monde scientifique, météorologie, climat, forêt, le parc national. Voilà, on a donc composé une équipe qui a fabriqué de toutes pièces les contenus de l'exposition. Et puis, une exposition, pour qu'elle soit agréable à parcourir, il faut qu'elle soit mise en scène et qu'elle soit fabriquée par un muséographe. Donc, c'est Jean-Marc Providence qui a été missionné pour réaliser cette exposition. Et puis, pour la scénographier, c'est Éric Verrier qui a donc mis en scène l'ensemble des 10 salles du climatographe.
Alors, je vois derrière nous que tous les panneaux sont traduits en anglais. Donc, il y a aussi une volonté en tout cas de toucher un public très large. Du coup, 2 questions en une. Est-ce qu'il y a d'autres lieux comme celui-ci qui existent en France ou en Europe? Et justement, quelle est la portée que vous souhaitez donner à cette exposition et à ce lieu?
Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres lieux de médiation et de sensibilisation tels que le climatographe en France et en Europe. D'ailleurs, hier, j'accueillais une délégation du Sénégal, et notamment un des cadres du ministère de l'Environnement du Sénégal, de l'Agriculture, de l'Environnement, je ne sais plus, qui a très envie de pouvoir copier ce centre pour l'Afrique, en tout cas pour son pays. Et donc voilà, on a ça suscite parfois la curiosité et l'envie de faire la même chose, que, après tout, on n'est pas propriétaire du concept. Au contraire, il faut qu'on développe la médiation et l'information du grand public sur ces sujets qui sont des sujets majeurs aujourd'hui. Le lieu est aussi un lieu qui a vocation à accueillir la recherche. Et donc c'est aussi comme ça qu'il va rayonner. Donc oui, il est unique en France et on espère qu'il va pouvoir aussi faire référence en matière de recherche pour continuer à travailler sur les questions du climat et du changement climatique. Alors nous, on n'est pas centre de recherche, mais on va accueillir des chercheurs en résidence puisque c'est l'objet aussi de la convivialité dont je parlais tout à l'heure.
Au niveau régional, il y a des partenariats avec les universités les plus proches qui sont envisagés ?
Oui, bien sûr, on a déjà quelques travaux qui sont engagés avec l'Université Paul Valéry à Montpellier, l'Université de Nîmes, l'École des Mines d'Alès, et puis plus lointain, l'Université d'Artois. Voilà, on a l'Université de Liège aussi qui va venir nous rendre visite, donc là des Belges, au printemps prochain. Bien sûr, il faut qu'on arrive à tisser ces liens. Au-delà d'ailleurs de l'aspect universitaire, on accueille aussi des étudiants en master, en licence, sur les questions de l'environnement. Je recevais hier un master de gestion de Montpellier sur la gestion de l'eau, voilà, parce que c'est des sujets qui sont évidemment, qui impactent forcément beaucoup de formations aujourd'hui en France.
À la montagne, mamma irea, la montagne. À la montagne, mamma irea, la montagne. À la montagne, mamma irea, la montagne. À la montagne, mamma irea, la montagne.
À la montagne. Sur les cartes qui viennent donc du coin. On marche sur le lac des Pises, ok.
Oui, ici, on est dans un lieu, dans une géographie particulière. On est dans zone montagne. Donc, on est dans une salle qui a voulu accueillir dans une géographie et aussi dans une histoire qui n'est pas banale. Donc c'est une salle entièrement recouverte d'une carte IGN qui embrase à peu près les Cévennes, hein, donc la communauté de communes Causse Aigoual Cévennes évidemment, et la partie gardoise et lozérienne des montagnes de l'Aigoual. Donc on a la référence géographique, on a la référence à l'histoire, avec Georges Fabre, dont on découvre l'histoire et la pugnacité pour pouvoir planter, il y a maintenant plus de 120 ans, 61 millions d'arbres sur le massif. Voilà. Et puis un autre écran tactile qui permet de découvrir les conditions extrêmes de l'Aigoual. Voilà. La géologie aussi. Voilà. Le visiteur qui vient ici, il ne perd pas son temps. Il a beaucoup de choses à apprendre. Il n'est pas obligé de tout lire. Toujours, je me suis amusé à le regarder. Si on voulait vraiment tout lire, tout écouter, on en a pour deux bonnes grosses heures pour parcourir toutes les salles.
Justement, est-ce que vous avez des retours des habitants du coin qui connaissent ce lieu, qui sont très attachés ?
Oui, on a de bons retours. On a d'abord invité les habitants à venir la première semaine du mois de juillet à redécouvrir l'observatoire, parce qu'ils étaient attachés à l'exposition historique qui avait démarré au début des années 80. Là, donc évidemment, l'exposition a complètement changé. On a d'ailleurs eu quelques remarques sur le fait que, effectivement, je le disais tout à l'heure, les instruments historiques étaient un peu regrettés. Donc on va les remettre en circulation, en tout cas à la présentation. On a de bons retours parce que les gens comprennent que ce lieu-là ne va pas mourir, qu'il va continuer à vivre avec une vocation qui reste à peu près semblable à ce qu'elle a toujours eu depuis sa création. La science, l'observation, la nature, l'environnement et la médiation avec le grand public. Voilà la galerie sud dans laquelle, je le disais tout à l'heure, on a l'évocation à la fois poétique, littéraire, du paysage, avec des bornes audio qui permettent d'écouter face à la mer, j'allais dire, face aux vallées, Cévenoles, les références au paysage, et puis des citations de scientifiques, des citations de géographes, des citations d'hommes politiques. Par exemple, on peut peut-être prendre celle de la présidente de notre comité scientifique, Valérie Masson-Delmotte, qui disait en 2022 « Il y en a marre des petits pas et du greenwashing. Comment faire comprendre tant l'urgence que la nécessité d'agir ? Depuis la fin du 19e siècle, les activités humaines ont provoqué en France un réchauffement de 1,4 degré. Les conséquences en sont nombreuses. L'augmentation du nombre de jours chauds et des canicules, on est en train de le vivre en ce moment. La multiplication des jours de pluie torrentielle, l'intensification des sécheresses et des feux de forêt, la fonte généralisée des glaciers, la montée du niveau des mers, ces changements ont des impacts déjà visibles partout, pour les gens comme pour les écosystèmes. Voilà une des citations que l'on retrouve dans la galerie de l'Observatoire.
Jean-Pierre Chabrol, 1965. Tout vient de la montagne et tout y revient. Notre toit, nos murs, si bien faits pour être murs qu'ils se passent de ciment depuis des siècles, si bien que nos masses semblent seulement continuer la montagne.
La météo, les lotères dont la météo.
Escapade et vous, ça continue avec cette visite du climatographe à l'Observatoire du Mont-Aigoual en compagnie de son directeur Laurent Bonnard.
Ici, on dit dans la salle d'observation, la salle météo, dans laquelle les visiteurs vont retrouver depuis 1894 quelques extraits des registres d'observation écrits à la main avec de très belles écritures, des belles signatures. Et puis aussi la référence moderne avec des écrans tactiles sur lesquels on a des informations ou en tout cas des interviews d'Emmanuel Leroy-Ladurie, de Claude Lorius, de Jean Jouzel, de Valérie Masson-Delmotte, etc. On est aussi dans une salle qui explique comment la météo est fabriquée aujourd'hui sur la planète, comment on observe la météo et comment on observe le climat, évidemment. Pour rappel, la météo qui est, on va dire, la science de la prévision du temps qu'il fait, qui s'inscrit plutôt dans un temps court, sur 2-3 jours, on va jusqu'à une semaine et 15 jours, mais voilà, on va pas beaucoup plus loin parce que les modèles de prévision ne permettent pas pour l'instant de le faire. Et puis le climat, lui, s'inscrit sur le temps long et il regarde comment, sur des territoires donnés, le temps qu'il fait progresse, évolue.
Ce qui permet donc de voir d'une année sur l'autre si effectivement les choses se répètent ou s'il y a des modifications de grande ampleur comme on les voit maintenant.
C'est ça. Là, on est dans une petite galerie qui rappelle que finalement, cet emballement climatique qui ne date pas d'hier, a finalement été prise en compte de façon assez récente, finalement, depuis une vingtaine d'années. Et donc on parle d'emballement médiatique. Et là, donc, on a sur le mur des unes de journaux qui parlent effectivement d'événements climatiques extrêmes. Et donc on est passé, pour information, de 47 000 articles dans les années 2016-2017, donc là, il y a presque 10 ans, à 87 000 il y a 2 ans. Et donc, vous voyez, on a doublé pratiquement le nombre d'articles sur le sujet du climat en quelques années.
Alors oui, toutes ces unes, effectivement, quand on les voit avec les photos, les gros titres choc, bon, il y a un côté dramatique, effrayant, mais quelque part, c'est quand même bien, finalement, que maintenant, ça soit... C'est quand même nécessaire, du coup, d'alerter.
Mais c'est non seulement nécessaire, mais c'est, je veux dire, indispensable. Il faut que la prise en compte de ce qui se passe autour de nous soit généralisée pour que les citoyens que nous sommes, à la fois, aient envie d'agir et... Probablement, et c'est absolument indispensable, bah, changer les comportements, changer la manière dont on vit aujourd'hui. Et puis aussi, je le dis en toute tranquillité, les citoyens sont aussi invités au travers de ces unes à se poser des bonnes questions sur la manière dont fonctionne l'économie générale sur la planète, comment eux-mêmes consomment, et puis aussi puissent orienter, pourquoi pas, à un moment donné, leur décision de citoyen et leur vote vers des politiques qui vont prendre en charge, prendre en compte en tout cas ce réchauffement climatique et essayer d'adapter et essayer de réduire sensiblement les émanations de gaz à effet de serre sur notre pays d'abord et puis sur la planète de façon plus générale. Il y a des événements climatiques qui nous touchent déjà dans notre quotidien. Chacun a été bouleversé par les incendies gigantesques en 2022. Cet été, il y en a eu à nouveau au Canada, il y en a eu en Grèce, il y en a eu un petit peu partout dans le monde. Et ça, c'est déjà le quotidien des gens. Alors, effectivement, on n'a pas les pieds dans l'eau pour l'instant, encore que certaines côtes d'Atlantique sont déjà touchées par la modification du trait de côte et l'avancée l'augmentation du niveau de la mer et des océans. Mais vraiment, c'est un sujet qui, quand même, aujourd'hui, touche tout le monde. Et on en parle de plus en plus. Et c'est tant mieux. Il faut qu'on réagisse. Et ce lieu-là a vocation à faire réagir. Il n'a pas de vocation politique au sens, on va dire, politicien. Il a une vocation politique au sens de la vie de la cité, de la vie collective. Et les gens sont ravis d'ailleurs de ces informations qui, certes, ne sont pas forcément agréables à recevoir, mais qui leur donnent parfois aussi un bon prétexte pour se dire « Ah ben oui, mais il faut que je m'y mette, il faut que j'agisse à mon modeste niveau, collectivement, avec mon association, ou un jour, quand j'aurai un bulletin de vote à mettre dans une urne. » Voilà. Alors, ici, on est dans une grande galerie, qui est la Galerie Nord. On va expliquer comment le climat fonctionne sur la planète sans la présence de l'homme. Si l'homme n'était pas là, voilà, le climat, comment il fonctionne.
De la physique, quoi, vraiment.
Là, on est vraiment dans le jeu d'équilibre dynamique sur la planète. Et à côté, on a la même chose, mais avec la présence humaine. Et évidemment, les émanations de gaz à effet de serre. Voilà, c'est une exposition qui est très didactique, très pédagogique, de vulgarisation, mais avec parfois des informations un peu complexes. Donc il faut prendre le temps. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une exposition qu'on parcourt tranquillement en se donnant le temps. Voilà, voilà, en face de nous, il y a la sphère sur laquelle est projetée, j'en parlais tout à l'heure, sont projetés les scénarios du GIEC et qui permettent de faire comprendre les conséquences pour la planète avec quatre thématiques qui sont rapportées, quatre thématiques et quatre scénarii. L'émanation de gaz de CO2 dans l'atmosphère, la température sur le globe, la montée des eaux, les précipitations et la montée des eaux qui donne un aperçu de là où on est en train d'amener notre humanité, avec 4 scénarios qui sont envisagés, qui ont été modélisés, donc je le disais tout à l'heure, par un des membres du comité scientifique, David Salas. La dernière salle de l'exposition, elle parle des conséquences pour la planète, pour les êtres humains, pour la biodiversité, pour l'alimentation en eau. C'est pour ça que je disais que la dernière salle, la salle Agir, est une salle qui permet vraiment de comprendre comment on peut trouver des solutions collectivement, individuellement. Donc voilà, on finit le parcours par une note positive et optimiste. On n'est jamais totalement en dehors du champ, alors de la polémique si, parce qu'on ne souhaite pas ici faire la place à la polémique, mais la controverse, par contre, c'est un élément de débat public important, nécessaire. Donc on est un lieu où on peut débattre, et d'ailleurs il y a sur la salle Agir une immense fresque qui s'appelle la fresque de la renaissance écologique, sur laquelle chacun peut poser ses messages, porter de la controverse, des questions, des propositions. Et donc c'est vraiment, celui-là, il est pensé pour ça. On est loin du débat politique, même si les questions du climat et du réchauffement climatique sont éminemment des questions d'ordre politique. Chacun doit s'en emparer et chacun doit se faire son idée. On n'a pas vocation à asséner la vérité, mais on donne des informations qui sont scientifiques, vérifiées. Voilà. Alors, on a de moins en moins de climato-sceptiques. On en a encore quelques-uns qui visitent, qui font quelques remarques. Mais il faut aussi laisser la place à ces interrogations, à ces doutes. On ne laisse pas la place, nous, aux fake news. On essaye d'éviter de se laisser entraîner dans ces dimensions, notamment au travers des réseaux sociaux, même si on informe au travers de ces derniers le grand public sur ce qui se passe dans l'Observatoire.
Les jeunes générations, j'imagine que vous avez ou vous allez avoir de nombreuses visites de scolaires, que ce soit des primaires ou des plus adolescents.
On va dire que là, aujourd'hui, à partir de 11 ans, on arrive à visiter sans aucun problème. En dessous, il faut qu'on arrive, nous, à créer d'autres outils. Donc, on est en train de les concevoir. Et évidemment, on va accueillir des classes. On le fait déjà, des lycées, des collèges, des primaires, puisque les enseignants ont tout intérêt à utiliser cet outil qui est le climatographe comme lieu ressource, et ils le font fort volontiers, ils le faisaient déjà avant que le climatographe ne démarre cet été. Les universitaires aussi, j'ai accueilli cette semaine des masters, des BTS cet après-midi. Donc on a, ça fait partie des trois branches de notre projet, la médiation, l'accueil de la recherche et l'accueil des scolaires, on va dire. Ce lieu, il est efficace, entre guillemets, parce que c'est le Mont-Aigoual, parce qu'il est dans un environnement extrêmement beau, puissant, et son pouvoir d'évocation, on va dire, couplé avec les informations qui sont diffusées, on pense que c'est là toute l'efficacité du lieu et de la visite.
Et d'ailleurs, vous restez ouvert encore, pas pendant l'hiver, j'imagine ?
Alors, j'ai pris l'habitude de dire qu'il n'y a pas une journée où la lumière ne sera pas allumée dans l'observatoire. Donc on ouvre au tout début du mois d'avril et on ferme au tout début du mois de novembre, ce qui laisse déjà une bonne période pour les visiteurs pour fréquenter ces espaces. Et puis tout au long de l'année, moi j'accueillerai des groupes avec le médiateur qui sera sur place pour qu'on continue à faire vivre cette exposition 365 jours par an. Peut-être pas tout à fait 365 jours, mais en tout cas tous les mois de l'année. Voilà.
Bon, il reste encore un ou deux mois alors pour venir visiter l'Aigoual.
Oui, vous pouvez venir jusqu'au 4 novembre, il me semble que c'est la date à laquelle on fermera au public de visiteurs sur le Mont-Aigoual.
En pleine saison des champignons, c'est parfait.
Voilà, c'est ça, le brame du cerf, le parcours, on va dire, que je conseille, mais je n'ai pas besoin de rappeler aux auditeurs comment ils peuvent fréquenter nos montagnes. C'est évidemment en ce moment les cèpes, encore que cette année, ça ne sort pas beaucoup. Le brame du cerf, hein, évidemment, ici, on a plein de spots. Et puis, évidemment, des randonnées exceptionnelles. On a un parcours de randonnée autour de dans nos forêts des Cévennes qui est fabuleux. Et d'ailleurs, la randonnée, la fameuse, la célèbre randonnée des 4000 marches est extrêmement parcourue toute l'année, que ce soit dans la neige ou que ce soit sur les sentiers de l'été. Voilà.
Il y a, je crois, aussi un parcours Land Art qui se réalise chaque année en partenariat avec la filature du Mazel, c'est ça ?
Oui,
avec c'est laquelle ça. Peut-être vous avez des partenariats aussi.
Bien sûr. La filature du Mazel, ce sont nos partenaires incontournables. La Maison de l'Eau, hein, qui est aussi au Plantier. Voilà, on a effectivement ce parcours Land Art qui termine la randonnée des 4000 marches. Mais on a vraiment quelques petits joyaux que j'invite chacun à venir parcourir. Petit et grand et senior, tout est adapté à l'accueil, y compris quand on n'est pas très mobile, on arrive quand même à faire de belles balades dans le secteur.
Laurent Bonnard, merci beaucoup pour cette visite.
C'est moi qui vous remercie, et puis à très bientôt au climatographe.
On va essayer de récupérer tout le monde.
Le climatographe est ouvert aux visiteurs jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint cette année. Les détails des jours et horaires de visite ainsi que les contacts et informations à venir sur l'actualité du climatographe sont à retrouver sur le site internet climatographe.fr. Quant aux propositions exceptionnelles qui ne manqueront pas de venir de la part du climatographe, elles seront bien évidemment annoncées dans les agendas culturels de Radio Escapade. N'hésitez pas à retrouver et à partager cette émission disponible en podcast sur le site radioescapade.org.
Escapade
et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.